Deuxième jour, tierce, où l'on assiste à une rixe entre personnes vulgaires. Émaro d'Alexandrie fait plusieurs allusions et Atso médite sur la sainteté et sur l'excrément du démon. Ensuite, Guillaume et Atso retournent dans le scriptorium. Guillaume voit quelque chose d'intéressant. Il a une troisième conversation sur le caractère licite du rire, mais en définitive ne peut regarder là où il voudrait.
Avant de monter au scriptorium, nous passâmes aux cuisines pour nous restaurer, car nous n'avions encore rien pris depuis que nous nous étions levés. Je me revigorai aussitôt en prenant une écuelle de lait chaud. La grande cheminée méridionale ardait déjà comme une forge, tandis que dans le four se préparait le pain du jour. Deux chevriers déposaient la dépouille d'un mouton à peine égorgé. Parmi les cuisiniers, je vis Salvatore, qui me sourit avec sa gueule de loup. Et je vis qu'il prenait sur une table un reste de poulet de la veille au soir et le passait furtivement aux chevriers qui le cachaient dans leur sarrau de peau en ricanant de satisfaction. Mais le chef cuisinier s'en aperçut et réprimanda Salvatore.
« Célérier, célérier, dit-il, ton devoir est d'administrer les biens de l'abbaye, pas de les dissiper. »
« Fili dei, ils sont, » dit Salvatore. « Jésus a dit que vous faisiez pour lui ce que vous faisiez à un de ses pères. »«
Fraticelle de Mébray, péteur de minorite !» lui cria alors le cuisinier. « Tu n'es plus avec tes gueutes, frère, c'est la miséricorde de l'abbé qui pourvoira aux enfants de Dieu. »
Salvatore s'assombrit et, hors de lui, fit volte-face.
« Je ne suis pas un fraticelle minorite. » « Je suis un moine sancti benedicti, merder à toi, bogomil de merde !»«
Bogomil la ribaude que t'encules la nuit avec ta verge hérétique, porc !» cria le cuisinier.
Salvatore fit sortir en toute hâte les chevriers, et en passant, il nous regarda avec préoccupation.
« Frère, dit-il à Guillaume, défends-toi même ton ordre, qui n'est pas le mien, dis-lui que le filius Francisque non hérético cesse !»
Puis il me souffla à l'oreille.
« Il est menteur, pois !»
et cracha par terre. Le cuisinier vint le bouter dehors méchamment et lui claqua la porte dans le dos. « Frère, dit-il à Guillaume avec respect, je ne disais pas de mal de votre ordre et des très saints hommes qui en font partie. Je m'adressais à ce faux minorite et faux bénédictin qui n'est ni chair ni poisson. » Je sais d'où il vient, dit Guillaume conciliant, mais maintenant il est moine comme toi et tu lui dois un respect fraternel.
« Mais lui, il fourre son nez là où il ne doit pas le mettre, parce qu'il est protégé par le célérier. Et se croit lui-même le célérier, il use de l'abbaye comme si c'était sa chose à lui, de jour et de nuit. »«
Pourquoi de nuit ?» demanda Guillaume. Le cuisinier fit un geste comme pour dire qu'il ne voulait pas parler de choses peu vertueuses. Guillaume ne lui demanda rien d'autre et termina de boire son lait. Ma curiosité était de plus en plus excitée. La rencontre avec Hubertin, les bruits sur le passé de Salvatore et du célérier, les allusions toujours plus fréquentes aux fraticelles et aux minorites hérétiques que j'entendais faire ces jours-là, cette réticence du maître à me parler de Fra Dolcino. Une série d'images commençait à se recomposer dans mon esprit. Par exemple, tandis que nous accomplissions notre voyage, nous avions rencontré au moins deux fois une procession de flagellants. Une fois la population du lieu les regardait comme des saints, une autre fois, elle commençait à murmurer que c'était des hérétiques. Et pourtant, il s'agissait toujours des mêmes gens. Ils allaient en procession deux par deux par les rues de la ville, les pudendas seules recouvertes, passant outre à tout sentiment de vergogne. Chacun avait en main un fouet aux lanières de cuir, et il se frappait les épaules jusqu'au sang, versant d'abondantes larmes comme s'ils voyaient de leurs yeux la passion du Sauveur. Ils imploraient avec un chant plaintif la miséricorde du Seigneur et l'aide de la Mère de Dieu. Non seulement le jour, mais aussi la nuit, avec des cierges allumés, dans la rigueur du froid hivernal. En foule, ils allaient d'église en église, se prosternaient humblement devant les autels précédés par des prêtres munis de cierges et d'étendards, et point uniquement des hommes et des femmes du peuple, mais aussi de nobles matrones et des marchands. On assistait alors à de grands actes de pénitence. Ceux qui avaient volé restituaient leurs appropriations malhonnêtes, d'autres confessaient leurs crimes. Mais Guillaume les avait regardés avec froideur et m'avait dit que ce n'était pas la vraie pénitence. Il s'était plutôt exprimé comme il venait déjà de le faire ce matin même. L'époque du grand lavement pénitentiel était révolue, et ça, C'était la manière dont les prédicateurs eux-mêmes organisaient la dévotion des foules, justement pour qu'elles ne succombent pas sous le joug d'un autre désir de pénitence qui, celui-là, était hérétique et faisait peur à tous. Mais je ne parvenais pas à saisir la différence, si toutefois différence il y avait. Il me semblait que la différence ne venait pas des gestes de l'un ou de l'autre, mais du regard avec lequel l'Église jugeait l'un et l'autre geste. Je me rappelais la discussion avec Hubertin. Il ne faisait pas de doute que Guillaume avait été insinuant. Il avait cherché à lui dire que la différence était minime entre sa foi mystique et orthodoxe et la foi altérée des hérétiques. Hubertin en avait pris ombrage, comme quelqu'un qui voyait parfaitement la différence. L'impression que j'en avais retirée était que lui se trouvait être différent précisément parce qu'il était celui qui savait voir la différence. Guillaume s'était soustrait au devoir de l'Inquisition parce qu'il ne savait plus voir cette différence. C'est pourquoi il n'arrivait pas à me parler de ce mystérieux Fradelsino. Mais alors, d'évidence, me disais-je, Guillaume a perdu l'assistance du Seigneur, qui non seulement enseigne à faire la différence, mais pour ainsi dire investit ses élus de cette capacité de discernement. Hubertin et Claire de Montfaucon, qui étaient aussi entourés de pêcheurs, étaient restés saints justement parce qu'ils savaient discriminer. La sainteté est cela et rien d'autre. Mais pourquoi Guillaume ne savait-il pas discriminer? C'était pourtant un homme suprêmement subtil, et pour ce qui concernait les faits de la nature, il savait percevoir la moindre dissemblance et la moindre parenté entre les choses. J'étais plongé dans ses pensées, et Guillaume finissait de boire son lait, quand nous nous entendîmes saluer. C'était Aymaro d'Alexandrie, dont nous avions déjà fait la connaissance dans le scriptorium, et dont m'avait frappé l'expression du visage, empreint d'un perpétuel ricanement, comme s'il ne parvenait jamais à admettre tout à fait la vanité de tous les êtres humains, et cependant n'attribuait pas grande importance à cette tragédie cosmique. « Alors, frère Guillaume, vous vous êtes déjà habitué à ce repère de démons ?»« Ce lieu me semble rempli d'hommes admirables de sainteté et de doctrine, » dit prudemment Guillaume. « Il le fut, quand les abbés étaient des abbés, les bibliothécaires des bibliothécaires. Vous l'avez vu à présent là-haut ?» Et il montrait l'étage supérieur. Cet Allemand à demi-mort, avec des yeux d'aveugle, qui écoute dévotement les divagations de cet Espagnol aveugle avec des yeux de mort. On dirait que doit arriver l'Antéchrist chaque matin. On gratte les parchemins, mais il entre très peu de livres nouveaux. Nous, nous sommes installés ici, et là-bas dans les villes, on agit. Jadis, depuis nos abbayes, on gouvernait le monde. Aujourd'hui, vous le voyez, l'empereur nous utilise pour envoyer ici ses amis rencontrer ses ennemis. J'ai eu vent de votre mission, les moines parlent. Ils n'ont rien d'autre à faire. Mais s'il veut contrôler les affaires de ce pays, il s'en tient aux villes. Nous en sommes, à la récolte du blé et à l'élevage de la volaille. Et là-bas, ils échangent des aunes de soie contre des coupons de lin, et des coupons de lin contre des sacs d'épices, et le tout contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Nous veillons sur notre trésor quand là-bas on les accumule, les trésors. Et les livres aussi. Et plus beaux que les nôtres. Certes, dans le monde, il se passe tant de choses nouvelles. Mais pourquoi pensez-vous que la faute revienne à l'abbé? Parce qu'il a remis la bibliothèque aux mains des étrangers et qu'il mène l'abbaye comme une citadelle dressée pour la défense de la bibliothèque. Une abbaye bénédictine dans cette contrée italienne devrait être un lieu où des Italiens décident pour des choses italiennes. Que font les Italiens aujourd'hui qu'ils n'ont plus même un pape? Ils s'adonnent au commerce et ils bâtissent et ils sont plus riches que le roi de France. Et alors, faisons pareillement nous aussi. Si nous savons faire de beaux livres, fabriquons-en pour les universités et occupons-nous de ce qui se passe en bas dans les vallées. Je ne dis pas de l'empereur, avec tout mon respect pour votre mission, frère Guillaume, mais de ce que font les Bolognais ou les Florentins. Nous pourrions contrôler d'ici le passage des pèlerins et des marchands qui vont de l'Italie à la Provence et vice-versa. Ouvrons la bibliothèque aux textes en langue vulgaire. Et jusqu'à nous, montrons aussi ceux qui n'écrivent plus en latin. En revanche, nous sommes contrôlés par un groupe d'étrangers qui continuent de diriger la bibliothèque comme s'il y avait encore à Cluny le bon Odilon abbé. « Mais l'abbé est italien, » dit Guillaume. « L'abbé ici ne compte pour rien, » dit Aymaro toujours en ricanant. « À la place de la tête, il a une armoire de la bibliothèque, il est vermoulu. Pour agacer le pape, il laisse envahir l'abbaye par les fratricelles, je veux dire les hérétiques. » Frères, les transfuges de votre très saint ordre. Et pour flatter l'empereur, Il appelle ici des moines de tous les monastères du Nord, comme si nous n'avions pas chez nous d'excellents copistes, et des hommes qui savent le grec et l'arabe, et qu'il n'y a pas à Florence ou à Pise des fils de marchands riches et généreux qui entreraient volontiers dans l'ordre, si l'ordre offrait la possibilité d'augmenter la puissance et le prestige de leur père. Mais ici, l'indulgence pour les choses du siècle, on la pratique seulement quand il s'agit de permettre aux Allemands... Oh Seigneur, foudroyez ma langue, car je vais dire des choses peu convenables. Dans l'abbaye, il se passe donc des choses peu convenables ? Demanda distraitement Guillaume en se versant encore un peu de lait.